Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h12 à 13h. Et c'est évidemment sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. Très heureux de vous retrouver comme chaque jour. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le mercredi 7 avril 2021. Il fait toujours assez frais dans le Beaujolais, autour de 8 degrés. Le ciel est légèrement voilé, mais on devrait normalement quand même profiter un peu du soleil encore cet après-midi. Au programme de notre émission de l'économie avec le prof Patrick, on parle d'Europe et en particulier de l'Allemagne. Dans l'Europe, on va parler un petit peu de cinéma aussi avec l'annonce de nouveaux blockbuster, mais avant tout ça, eh bien, on commence l'émission avec notre invitée qu'on retrouve par téléphone, Jessica Jacques, qui est avec nous. Elle nous parle d'un défi avec moi, c'est le challenge que s'est lancé Bruno Boulard, un tour de France de 5000 km en 30 jours pour sensibiliser à l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et notamment l'AVC pédiatrique. En effet, en France, environ 150 000 personnes de tout âge sont victimes chaque année d'un AVC, soit une personne toutes les 4 minutes, et parmi elles, 1000 enfants. On va donc revoir ensemble ce qu'est un AVC, quels sont les symptômes, comment le repérer, comment agir. Et puis on va parler de cette grande action de sensibilisation menée par le milieu associatif. On en parle tout ça avec notre invitée Jessica Jacques. Avant tout ça, on commence l'émission en musique, bien sûr, avec une nouveauté et un titre qui met du baume au cœur. On écoute le jeune artiste Teamed Up avec le titre Juste pour te plaire. Nous sommes ensemble sur Calade. Il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Sous les lueurs poignardes du crépuscule sur le parking, on m'a forcé à boire. Et j'ai le pull taché de jean, de grand lampé, de myrtille, vodka, avalé à la fiole. C'était juste avant que la nuit ne pâlisse et s'étiole. On pousse encore un peu le volume, les gens se bousculent dans le noir. Les ambiances de pogo, de brume, de baisers et de verre au comptoir. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense à moi. Juste pour te plaire. Oh. Juste pour te plaire. Oh. On s'est trouvé dans la pénombre. Puis j'ai perdu ta trace. Les silhouettes qu'on peut confondre. Au bout d'un visage, une impasse. Tu m'as souri, puis t'es parti. Depuis, je compte les jours, les heures. Dans la fumée, il est minuit. Je voulais juste que tu me brises le cœur. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Dans le décor, le moindre détail qui puisse refaire l'histoire et calfeutrer la faille. On s'est loupé la veille, mais je garde en mémoire tes boucles d'oreilles et ton caraco noir. C'est juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire. J'ai tout tenté pour que tu me vois. C'est juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire.
Voilà un titre qui donne la pêche, c'était Team Up sur Calade avec Juste pour te plaire.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Allez, tout de suite, on retrouve notre invitée du jour, c'est Jessica Jacques. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui, vous allez nous parler d'un défi, celui de Bruno Boulard qui va faire le Tour de France en 30 jours, un Tour de France de 5000 km à vélo pour sensibiliser autour de la question de l'AVC. Avant de parler de ce défi, est-ce qu'on peut parler de ce que c'est qu'un AVC, un accident vasculaire cérébral ? Qu'est-ce qui se passe en fait quand ça arrive ?
Oui, bien sûr. Alors en fait, un AVC, un accident vasculaire cérébral, c'est quand on a un vaisseau du cerveau qui soit se bouche, qu'on appelle un AVC ischémique, ou soit est rompu, notamment par un anévrisme qui se rompt, et là c'est un AVC hémorragique.
D'accord. Et donc concrètement, ce qui se passe, c'est que ça bloque une partie du cerveau, si j'ai bien compris.
C'est ça, et ça détruit en fait les neurones du cerveau, parce que le cerveau ne peut plus être irrigué correctement, donc c'est une urgence vitale où chaque minute compte.
Ouais, et c'est j'ai dit les chiffres en début d'émission, il y a 150 000 personnes qui sont atteintes d'un AVC par an. Ça fait une personne toutes les 4 minutes. Est-ce que ça a plus de chances de toucher certaines personnes plutôt que d'autres ?
Alors les personnes qui ont des facteurs de risque comme l'hypertension, une arythmie cardiaque, du diabète, du cholestérol, ceux qui sont sédentaires, qui sont en obésité. Mais une personne lambda, telle qu'un enfant, ou une personne qui n'a pas du tout de facteur de risque, peut aussi brutalement être frappée d'un AVC.
Mmh. C'est qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles, mais en fait, ça peut toucher tout le monde, absolument tout le monde, à tout âge.
Exactement, n'importe qui, n'importe quand.
Un AVC, c'est un accident, ça s'appelle accident vasculaire cérébral. C'est un accident, c'est quelque chose de ponctuel, mais ça laisse des marques, des séquelles dans le temps.
Oui, le terme d'accident montre bien que c'est quelque chose de soudain qui prévient pas. Et les séquelles sont variées en fonction de la zone du cerveau qui est touchée.
Alors,
mais par contre, avec une rééducation quotidienne et vraiment tenue de main de maître, on peut récupérer plus ou moins.
Ça se soigne, vous dites tenue de main de maître, c'est un parcours difficile pour le soigneur.
Un parcours difficile pour la victime, mais aussi pour ses proches. Beaucoup de rééducation, beaucoup de temps passé, des difficultés. Mmh. Mais justement, tant qu'on garde l'espoir et qu'on se bat, on met toutes les chances de son côté pour y arriver.
Alors vous, Jessica Jacques, vous avez lancé une pétition pour une campagne de santé publique contre l'AVC. Pourquoi cette pétition ?
Parce que j'ai moi-même été victime de deux AVC en 2017. J'avais 31 ans. Je me suis aperçue, déjà par rapport à ma prise en charge qui a été catastrophique, que même les personnels médicaux pouvaient passer à côté malgré les symptômes que je présentais, mais surtout en avertissant ma famille, mes proches, que je venais de faire un AVC, ils sont tombés des nues parce qu'ils pensaient que c'était une entre guillemets une maladie de vieux, que seules les personnes âgées pouvaient être frappées. Et je me suis aperçue qu'en fait, la plupart des gens à qui je parlais ne connaissaient pas les signes. Je me suis dit, plutôt que de râler dans mon coin, entre guillemets, je vais plutôt essayer de me battre pour faire changer les choses.
Ouais. Et donc, vous avez lancé cette pétition et votre objectif, c'est qu'il y ait des vraies campagnes de sensibilisation qui soient mises en place pour que tout le monde soit au courant des symptômes. On va parler du défi que s'est lancé, c'est Bruno Boulard qui va faire le Tour de France à vélo pour sensibiliser autour de l'AVC. Il part pendant 30 jours pour rencontrer des jeunes victimes, c'est ça ?
C'est ça. Alors, il est déjà parti même. Il est parti le 27 mars pour boucler un Tour de France qui va se terminer le 25 avril. Oui, donc 5000 km à vélo, sans aucune assistance, sans préparation. Et il va rencontrer notamment 15 enfants qui ont été victimes d'un accident vasculaire cérébral ou de plusieurs, et 3 adultes, dont moi.
Et ce parcours, c'est dans toute la France, et l'objectif, c'est de récolter des fonds pour soutenir les personnes atteintes d'AVC.
Oui, notamment. Alors, l'objectif principal, c'est parce qu'on est en train de faire, c'est de médiatiser, de faire mieux connaître l'AVC autour de nous. Donc, je vous remercie d'ailleurs de me laisser l'occasion de le faire sur Radio Calade. Et c'est aussi de récolter des fonds, comme vous le disiez, pour ces petites victimes, pour améliorer leur quotidien et puis payer aussi certains soins qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.
Et alors, il va rencontrer des jeunes enfants qui ont été victimes d'un AVC, justement, et il y a des histoires assez surprenantes. Effectivement, l'AVC, dans mon imaginaire, en tout cas, c'était une maladie de vieux, un petit peu, comme vous avez dit, mais il y a des cas d'enfants très très jeunes qui en ont été victimes, et c'est assez étonnant de découvrir ça.
Oui, c'est justement... parce que c'est étonnant qu'on souhaite le médiatiser pour que finalement les prises en charge pour ces enfants, et souvent c'est des parcours du combattant pour les parents et pour ces petits bouts, et beaucoup de médecins sont passés à côté, les prises en charge sont beaucoup plus longues, et on veut que ça change justement, et c'est par ce biais que ce défi qu'on pourra faire bouger les choses.
Et quand on lit leur histoire, on se rend compte que souvent, pas toujours, hein, mais ça arrive dans plusieurs cas, il y a eu des problèmes pour diagnostiquer cet accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce qui complique le diagnostic ?
L'a priori sur l'âge de survenue d'un AVC, en fait. C'est exactement ce qu'on disait juste avant. Dans l'imaginaire collectif, ça ne touche que des personnes de 70, 80 ans et plus, alors que la réalité n'est pas du tout celle-ci. Chaque année, 1000 enfants sont frappés d'un accident vasculaire cérébral. Donc c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. Et justement, les signes de l'AVC sont absolument nécessaires pour améliorer ce temps de prise en charge et de diagnostic.
Et justement, le temps de prise en charge et de diagnostic, c'est quelque chose de crucial, si j'ai bien compris. Plus on va agir vite et moins il y aura de conséquences.
Oui, parce qu'en fait, chaque minute qui se passe lors d'un AVC, c'est 2 millions de neurones qui sont détruits.
D'accord.
Donc ça explique bien qu'il faut agir très très vite.
Et donc comment ça se passe ce défi? Il est parti, vous nous avez dit, fin mars, le 27 mars. Il va arriver au niveau de Mâcon, il me semble, le 21 avril. Et il va passer par Villefranche ce jour-là. Il va à la rencontre des familles, il est accueilli dans les familles le temps d'une nuit, c'est ça?
Exactement, en fait, justement, le mercredi 21 avril, comme vous le disiez, il fait une étape qui démarre de Mâcon, passe par Bourg-en-Bresse, Belleville-sur-Saône, Villefranche-sur-Saône, et qui se termine à Saint-Alban-de-Roche en Isère, donc qui est ma commune. Donc je fais partie des victimes qu'il rencontre sur son parcours. Et voilà, et donc ça se terminera ensuite, donc le dimanche 25 avril, il est parti. En fait, c'est un gardois. Donc, il est parti en fait de l'Hérault, il est parti de Ganges. Il faut imaginer qu'il fait tout le tour de la France et qui revient par. Il arrive dans les Bouches-du-Rhône à Fontvieille, près de Arles, pour vous situer à peu près.
D'accord. Et c'est pas son premier défi depuis 2017. Il en a déjà fait plusieurs comme ça, à pied, il avait fait 700 km et puis il était parti jusqu'en Espagne à vélo également. C'est impressionnant comme défi de se lancer ça.
Exactement, en fait il a lancé ce défi parce que Il a été très sensible à la cause de l'AVC parce qu'il a été, enfin, son frère a été touché de plein fouet. Mmh. Et pareil, il s'est aperçu qu'il fallait mieux faire connaître l'AVC et il a aussi voulu se confronter à ce qu'était la difficulté que pouvaient éventuellement rencontrer les victimes d'AVC, de se battre même quand on est fatigué, même quand on n'est pas prêt, que ça vous tombe dessus. Et c'est la comparaison qu'il fait avec ses défis à pied ou à vélo, c'est qu'il ne se prépare pas et il y va, quel que soit ce qu'il va rencontrer sur son chemin.
Juste avec la volonté.
Exactement.
Alors, l'objectif de ce défi, c'est effectivement de sensibiliser sur l'AVC. Moi, je vous propose qu'on rappelle les symptômes de cette maladie. Comment est-ce qu'on repère un AVC ?
Alors, c'est très facile à retenir. Quand on pense avoir devant soi quelqu'un qui fait un AVC, il faut agir vite, V-I-T-E. Et à chaque lettre correspond en fait un symptôme. Donc V comme visage, si le visage est affaissé, que le sourire est tordu, que la bouche se met de travers. V également comme vue, s'il y a un trouble brutal de la vue ou la perte d'un champ visuel. I comme inertie d'un membre, c'est-à-dire l'impossibilité ou la difficulté à lever son bras ou sa jambe. T comme un trouble de l'équilibre. C'est également comme un trouble de la parole, si on a une difficulté à répéter une phrase toute simple comme par exemple « j'écoute Radio Calade ». Et E, extrême urgence, on appelle immédiatement le 15 et surtout un seul de ces signes suffit pour contacter le SAMU.
D'accord, oui, et au moindre signe, il faut contacter très rapidement le SAMU.
On n'hésite pas et on dégaine son téléphone et on appelle le 15.
Donc ça, c'est pour les adultes. Pour les enfants, j'imagine que ça fonctionne aussi. Mais il y a des symptômes un peu différents chez les bébés et les nouveau-nés qu'il faut connaître. C'est des cas extrêmement particuliers. Comment est-ce qu'on se renseigne si on a envie d'en savoir plus? Est-ce qu'il y a, un site internet, quelque chose qui existe pour se renseigner?
Alors déjà, pour suivre le défi, vous avez la page Facebook « Un défi avec moi ». Dans laquelle vous retrouverez notamment le lien de la cagnotte dont vous parliez tout à l'heure. Et puis sinon, vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur ma page personnelle Facebook pour une campagne de santé publique contre l'AVC, où je parle de l'AVC en général. Après, vous avez, en tapant AVC de l'enfant sur un moteur de recherche ou France AVC ou la Société française neurovasculaire, vous retrouverez plein d'informations sur l'accident vasculaire cérébral.
Très bien. Merci beaucoup, Jessica, Jacques, de nous avoir parlé de ce beau défi et puis nous rappeler des gestes importants. Donc, vite, V-I-T-E, en cas d'AVC. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et au plaisir. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Allez, avant de parler d'économie avec le prof Patrick dans quelques instants, on écoute The Fratellis, Half Drunk Under a Full Moon, un tout nouveau titre.
rain and the lights came on. There was no sign of Cinderella. Cinderella was gone. She left every heart broken. Every good man cried. Each and every one had that look upon their face, like the 60s just died. Then someone said, I can feel the music. I can feel the music. I can feel the music. Tell me if you hear the music, say yes. 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 Say yes. Say yes. Say yes. Say yes. Say yes. 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 Yes.
Voilà, jusqu'à la dernière note, Half Drunk Under a Full Moon. C'est l'un des derniers titres du groupe The Fratellis.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur?
Son vrai nom, je ne le connais pas, mais par ici, on le connaît sous le nom de...
Professeur?
Ensemble sur Calade, le prof.
Alors attention, hein. Pas docteur, hein. Professeur. Hein.
Monsieur le professeur.
Et allez, on va parler d'économie avec le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
En forme, ça va bien?
Oui, oui, fait un peu froid, mais c'est pas grave, on survivra.
On va s'y faire. Bon, alors, on était en pleine étude de ce qui se passe entre l'Allemagne et l'Europe.
Ouais,
ils ont
ouais.
Une relation un peu compliquée, ces deux-là.
Tout à fait. Donc, la semaine dernière, comme tu le dis, Mathieu, on avait découvert avec stupéfaction que l'Allemagne, par la voie de sa Cour constitutionnelle, qui est l'équivalent allemand de notre Conseil constitutionnel, eh bien, elle se mettait au-dessus du reste des pays de l'Union européenne et se met même au-dessus des instances dirigeantes de l'Union européenne, puisqu'elle se donne le pouvoir d'exercer un veto sur n'importe quelle décision prise par une instance de l'Union européenne, que ce soit la Banque centrale européenne, que ce soit la Commission européenne, elle se donne le droit d'exercer un veto. Et donc, je vous avais promis, chers auditeurs, qu'on s'intéresserait en conséquence à cette question brûlante. C'est quoi l'Allemagne dans le projet européen? Qu'est-ce qu'elle y fait dans ce projet européen? Et qu'est-ce qu'elle veut? On y va?
Allez, c'est parti.
Alors, commençons par un peu d'histoire récente. Commençons par, après la Deuxième Guerre mondiale, le projet européen, c'est à ce moment qu'il se construit explicitement pour mettre fin à toute guerre entre les pays européens, notamment entre la France et l'Allemagne. Dès les années 50, un projet de communauté européenne de défense va échouer, pas de bol. Échouer à cause des Français, hein, parce qu'il est vu comme trop atlantiste. Atlantiste, ça veut dire tourné vers les États-Unis, trop axé sur la soumission aux grands frères américains. Quand De Gaulle arrive au pouvoir, il signe en 1963 un traité d'amitié franco-allemand. Mais le Parlement allemand, le Bundestag, ajoute au dernier moment un préambule à ce traité qui va déclencher la colère de De Gaulle, parce que dans ce préambule sont nommés les points suivants, sont mentionnés les points suivants. Une étroite association entre l'Europe et les États-Unis, admettre la Grande-Bretagne comme objectif, une défense commune dans le cadre de l'OTAN, et l'abaissement des barrières douanières avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, etc., dans le cadre du GATT. Bref, tout ce que De Gaulle avait expressément écarté de la rédaction du traité d'amitié. De Gaulle avait une vision un peu sourcilleuse de la construction européenne. Ces deux moments d'histoire nous permettent de mettre le doigt sur un premier hiatus, donc entre la vision française et la vision allemande du projet européen. Pour les Français, pardon, je vais y arriver, il s'agissait d'affirmer une pleine indépendance politique vis-à-vis des États-Unis, de bâtir une Europe des nations, tandis que du côté allemand, eh ben, il s'agissait plutôt de bâtir un ensemble économique sous le parapluie protecteur du grand cousin allemand, américain, pardon. Donc, pas du tout la même vision des choses. Alors, on va avancer de 25 ans. Nous voilà maintenant à la fin des années 80. L'Empire soviétique s'effondre, brutalement, soudainement, et l'Allemagne est réunifiée, à la consternation de beaucoup de dirigeants européens, Mitterrand en tête. En effet, même si c'est rarement dit à haute voix, un des objectifs prioritaires de l'après-Deuxième Guerre mondiale, ça a toujours été dans l'esprit de ces dirigeants européens, la chose suivante, plus jamais une Allemagne suffisamment puissante pour retrouver ses tentations hégémoniques vis-à-vis de l'Europe. Bon, on peut dire que c'est raté. Hein.
Avec la réunification, effectivement.
Voilà, c'est raté. Alors la réponse de ces dirigeants, et Mitterrand en tête, hein, fin des années 80, va donc être d'arrimer l'Allemagne au projet européen, et notamment au projet de monnaie unique qui commence à être dans les cartons. Afin d'éviter qu'elle succombe à la tentation de reconstituer cette grande Allemagne sous le drapeau de son économie qui était déjà à l'époque surpuissante, et de sa monnaie qui, déjà, fin des années 80, est déjà surpuissante et triomphante. Le problème, c'est ce que les dirigeants européens n'ont pas compris, c'est que si l'Allemagne elle-même manifestait à l'époque une forte réticence à jouer le rôle de leader dans l'Union européenne, alors bien sûr en raison de son passé historique et de sa culpabilité historique, elle n'en était pas moins résolue à imposer son modèle de gouvernance, son modèle économique et son modèle monétaire. Ce qu'ont pas compris également les politiques européens, qui ont préparé le projet de l'euro, c'est le rapport de l'Allemagne à la question de la souveraineté. Vous voyez, on est au cœur de cette histoire de souveraineté quand on a la Cour constitutionnelle allemande qui pose son veto à toute décision potentielle de l'Union européenne. Deux commentaires sur cette question du rapport des Allemands à la souveraineté. Un, l'Allemagne a été, après la Deuxième Guerre mondiale, un pays qui a été occupé par la puissance occupante que sont les vainqueurs de la guerre. Elle a dû se battre pour reconquérir sa souveraineté. Donc même si on a passé quelques décennies, la question de la souveraineté reste un sujet brûlant pour les Allemands. Deuxième remarque, la conception allemande de la souveraineté est totalement liée à sa monnaie et à la conception dont les Allemands envisagent une monnaie. L'Allemagne, elle s'est construite, il faut le savoir, en 1834, au XIXe siècle, autour d'une union douanière et monétaire. C'est une union monétaire qui a permis l'apparition de la nation allemande. Elle s'est construite ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, autour d'un Deutschmark très puissant. Et enfin, début des années 90, elle accueille les Allemands de l'Est dans la réunification avec un cadeau qui est la parité égale entre le Deutschmark est-allemand et le Deutschmark ouest-allemand, ce qui était sur le plan économique n'importe quoi, une hérésie. Mais ils ont accepté, les Allemands de l'Ouest ont accepté ce cadeau, ça, ils ont mis 10 ans à le digérer, parce que c'était vraiment la question du prestige de la monnaie. Vous voyez ? Donc conséquence de tout ça, comme on l'a dit, la création d'un euro qui est en fait une transposition directe des principes monétaires du Deutschmark, a fait tout naturellement de l'Union européenne un espace de domination naturelle pour les Allemands. L'Allemagne a donc patiemment et méthodiquement travaillé à atteindre son objectif, qui était, comme je l'ai dit, imposer son modèle de gouvernance économique et monétaire. Alors, en vrac, tout un tas de mesures, le calcul de la parité entre la monnaie unique et le Deutschmark a été fait bien à l'avantage des Allemands. Dès les années 90, des délocalisations d'entreprises massives vont être faites en direction de l'Europe de l'Est. Le rideau de fer est tombé, on en profite. Et l'Europe de l'Est, c'est les voisins géographiques immédiats des Allemands. Troisièmement, on part sur le principe d'une banque centrale totalement indépendante, dont le siège est installé à Francfort, qui est conforme à la vision de la politique monétaire des Allemands. Cette politique monétaire est fondée sur une monnaie forte, comme les Allemands l'ont exigé et comme ils le faisaient avec le Deutschmark. Et petit à petit, au fil des années et des décennies, une augmentation régulière du nombre de technocrates allemands dans la machine bureaucratique bruxelloise. Bref, les Allemands ont avancé leur pion petit à petit au fil des décennies avec une grande discrétion et efficacité. Parallèlement, au début des années 90, la communauté économique européenne, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, est devenue l'Union européenne. Changement de nom, changement de philosophie. Exit l'Europe des nations chère à De Gaulle. Bonjour l'Europe libérale, fondée sur le principe désormais sacré de la libre concurrence. Et notamment sur le fameux ordolibéralisme allemand, c'est les principes politico-économiques allemands. Fini la politique industrielle publique, fini les grands projets européens type Airbus, tout ça c'est désormais interdit. Il ne reste plus que la concurrence libre et non faussée. Alors tu vas me dire, c'est formidable, la concurrence, ça crée de la compétitivité, etc. Oui, mais il faut aussi savoir que la concurrence, ça favorise en premier lieu les acteurs économiques qui sont les plus puissants à l'instant T. Ça les met en position de force. Donc, début des années 90, l'industrie allemande, qui est dominante depuis la fin du 19e siècle, va constituer un pôle d'attraction autour de laquelle va se reconstruire l'hégémonie allemande. Avec notamment, je l'ai dit, hein, l'ouverture de l'Union européenne aux pays d'Europe de l'Est, dans lesquels les Allemands se sont dépêchés d'aller s'implanter. Mais pas uniquement l'Europe de l'Est. Hein. On aura la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, la Slovénie, les Pays-Bas, tout ça, renforcé par la proximité géographique des quatre plus grands ports européens, que sont Rotterdam, Anvers, Hambourg et Amsterdam. Tout ça, ça nous forme cette fameuse Europe du Nord, qui est sortie vainqueur du choc économique des années 2009-2010. Cette fameuse Europe du Nord qui surdomine économiquement l'Union européenne. Bref, Mitterrand voulait éviter la reconstitution de la Grande Allemagne en arrimant les Allemands à l'Union européenne. En fait, il leur a juste fourni clé en main le cadre de l'Union européenne pour leur permettre d'accomplir ce projet de la Grande Allemagne. Pour finir, Mathieu, si tu le veux bien, on va revenir à notre point de départ. On a vu la semaine dernière que la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe était très stricte sur la question de la souveraineté allemande, puisqu'elle, donc, je l'ai dit, elle s'arroge le droit de s'opposer à toute mesure européenne qui irait contre sa conception de la souveraineté. L'Allemagne peut bien affirmer la supériorité de sa souveraineté sur celle de tous les autres pays de l'Union européenne, sur l'Union européenne elle-même, puisque c'est l'Union européenne elle-même qui, sur un plateau, lui a offert le cadre juridico-technique qui a permis aux Allemands d'atteindre leurs objectifs. Mais les objectifs, j'avais parlé d'objectifs économiques et monétaires. Si on parlait d'objectifs politiques maintenant.
Ouais, c'est ce que je me demande, c'est voilà. Les chefs économiques, mais est-ce que c'est une grande puissance politique aussi
C'est une très bonne question. L'Allemagne a-t-elle un modèle politique qu'elle désirerait imposer à l'Union européenne? Alors, l'Allemagne a un modèle politique, c'est le sien, c'est un État fédéral, comme les États-Unis, avec des États-Unis c'est des États et en Allemagne c'est des régions, fortes et très très autonomes. Mais de façon étonnante, l'Allemagne ne cherche pas du tout à imposer ce modèle politique à l'Europe. Pas du tout. Pourquoi ? Alors, petite explication. On a vu avec la crise de 2010, les Allemands, du fait de leur culture protestante, ont eu et ont toujours un jugement extrêmement dur vis-à-vis des pays de l'Europe du Sud, où ils ne voient que du chaos, du laisser-faire anthropique, bref, tout un monde à l'opposé de leurs valeurs à eux, sens de l'ordre, de la hiérarchie, de la responsabilité, etc. C'est très simple, hein. Dans l'esprit des Allemands, il n'est pas question d'aller plus loin dans l'intégration politique avec de tels peuples, c'est-à-dire de l'Europe du Sud. Non, il n'en est même pas question. Ils ne veulent pas de fédéralisme avec les pays d'Europe du Sud. Donc on est dans une situation tout à fait paradoxale, Mathieu, d'une Union européenne qui, tu le reconnaîtras et tout le monde le reconnaît, est actuellement très instable, n'est pas très efficace, en dehors des actions de la BCE, elle n'est pas très efficace. Il suffit de voir le résultat au niveau des vaccins, par exemple, c'est une catastrophe. Qui est sujette aux critiques très fortes des souverainistes et des populistes, hein, c'est clair, et qui est largement dominée par un pays, l'Allemagne, dont l'intérêt est de rester dans un statu quo politique pourtant intenable. Donc, conclusion, l'affirmation de la souveraineté absolue de l'Allemagne par la Cour constitutionnelle allemande n'est qu'une façon pour les Allemands d'appeler un chat un chat. L'Allemagne, c'est le pays qui domine et dirige de fait l'Union européenne. Ouais. Mitterrand n'a plus qu'à se retourner dans sa tombe. J'en ai terminé, Mathieu.
Aïe, aïe. Eh ben, merci beaucoup pour cet exposé sur, effectivement, pourquoi est-ce que l'Allemagne, c'est la plus grande puissance européenne maintenant, les choses.
Et qu'est-ce qu'elle veut en faire ? Pas grand-chose. Elle veut rester au statu quo. Elle veut pas bouger les choses. Mais ce statu quo, il est pas bon. Hein. Il est pas bon. Il peut pas rester comme ça. On est dans une situation bizarre. Hein.
Mais c'est confortable pour l'Allemagne, en tout cas.
Totalement. Je te donne un tout petit exemple. L'Union européenne vient de signer un accord sur l'investissement avec les Chinois. Cet accord est reconnu par tout le monde comme un accord très négatif pour l'Union européenne, sauf pour un pays, pour les Allemands.
D'accord.
Et voilà.
Ok. Bon, bah, on s'est tiré une balle dans le pied, j'ai l'impression, avec cette Union européenne.
Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Merci beaucoup, Patrick. À bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Allez, on écoute Caravan Palace tout de suite. Supersonics. Sonics, c'était Caravan Palace sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Vive le cinéma !
Allez, oui, on va essayer de parler cinéma, le monde du cinéma dans lequel il se passe rien de nouveau, bien sûr. Hormis des bandes annonces qui continuent de sortir, les gros producteurs continuent de produire et donc il y a d'énormes machines qui sont prévues en salle, des bulldozers d'effets spéciaux. Je vous propose donc une petite rubrique consacrée aujourd'hui aux gros films qui s'annoncent, aux gros bulldozers. Et justement, on commence avec l'affrontement de deux monstres.
Le vide est dangereux.
Godzilla s'en prend à tout le monde et on ignore pourquoi.
Quelque chose le provoque, mais on sait pas ce que c'est.
Je pense la même chose.
Il s'incline devant qui ?
Kong ne s'incline devant personne.
Il y a eu une bande-annonce surexcitée pour annoncer un combat incroyable, Godzilla versus Kong de Adam Wingard. On sent que le scénario du film ne sera qu'un gros prétexte à cet affrontement qui fait rêver quand même, et qui permet d'envoyer le paquet sur les scènes spectaculaires. Un film annoncé pour le 19 mai, Godzilla versus Kong. Allez, c'est mercredi, aujourd'hui c'est le jour du ciné, mais c'est aussi le jour des enfants. On va vous donc vous proposer un film pour les enfants, Space Jam 2, dans lequel LeBron James prend la suite de Michael Jordan et se lance dans un match de basket entouré de tous les Looney Tunes, de Bugs Bunny, Titi Grominé, etc., pour sauver son fils.
Si tu veux récupérer ton fils, faut que toi et moi on fasse un petit match de basket. Pete, envoie ma scloune chez les losers.
Attends!
C'est quoi ce délire? Je suis un cartoon?
Quoi de neuf, docteur?
Voilà, une idée typiquement américaine. On va mélanger deux trucs qu'on aime bien, du basket et des Looney Tunes, et on obtient Space Jam. Le premier, c'est des très bons souvenirs d'enfance. Sûrement que le deuxième, ça en sera aussi pour beaucoup. Space Jam 2, réalisé par Malcolm D. Lee. Lui, ce film, il est attendu pour le 14 juillet. Qui dit blockbuster dit évidemment super-héros, mais aussi super-vilain. Parmi les grosses nouveautés annoncées, on trouve Suicide Squad 2, la bande de méchants réunis par la menace pour sauver le monde de situations de crise ingérables. Le premier film avec Will Smith avait un petit peu fait flop. Le second s'annonce moins sombre et plus déjanté. C'est signé James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Et c'est avec un casting renouvelé et assez prometteur.
Vous connaissez les règles? Si vous menez la mission à bien, vous obtenez une remise de peine de 10 ans. Mais si vous me désobéissez en quoi que ce soit, je fais sauter l'engin explosif que vous avez dans la nuque.
Alors c'est ça la fameuse Suicide Squad?
Y a-t-il des questions?
Main!
Oui, c'est votre main. Bravo.
On va tous mourir.
Voilà, Suicide Squad 2, qui va s'appeler en réalité The Suicide Squad, est réalisé par James Gunn avec Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba et le catcheur John Cena. Film attendu pour le 28 juillet. Dernier blockbuster que je vous propose, qui dit blockbuster dit franchise. En 2004 sortait le film Saw, un thriller horrifique qui implique de l'automutilation avec un psychopathe machiavélique. C'est un film affreux, ça fait faire des cauchemars. Le film marche très bien. Donc de 2005 à 2009 sortent chaque année un nouveau film Saw, jusqu'à ce qu'on arrive à Saw 6. En 2010, clap de fin avec non pas Saw 7 mais Saw chapitre final. 2017, surprise, un spin-off, parce qu'on va pas laisser dormir une franchise qui marche bien. Ça s'appelle Jigsaw. Et maintenant 2021, l'acteur Chris Rock, fan de la saga, annonce l'arrivée de Spiral, l'héritage de Saw.
Ceux qui ont fait ça ont autre chose en tête. Ils visent les flics.
Ce merdier va vite nous dépasser.
Il y a quelqu'un dehors qui tire toutes les ficelles.
Tu veux jouer à un jeu, enfoiré ?
Voilà, Spiral de Darren Lynn Boozman avec Chris Rock et Samuel L. Jackson. Un film qui est attendu pour le 19 mai et qui s'annonce encore une fois très très effrayant.
Ensemble sur le Calade.
Vive le cinéma!
Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous la retrouverez en réécoute sur notre site internet radio-calade.fr. Et puis, rediffusion demain matin à 10h comme chaque jour. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à l'émission, il suffit de nous envoyer soit un mail à contact@radio-calade.fr ou bien un coup de fil au 04 74 68 80 82 ou encore un message sur nos réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Et puis, vous serez accueillis ici avec grand plaisir pour venir parler de ce que vous faites, d'une association, de votre métier. On parle de toutes sortes de choses d'Ensemble sur Calade. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h12 à 13h. Et c'est évidemment sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.